La joie de pouvoir louer le Seigneur ensemble, l'adorer, ou plutôt dans la tristesse. Ou qu'est-ce que vous avez vécu cette semaine avec le Seigneur? Pas toujours facile, je trouve, de louer le Seigneur. Vous êtes d'accord? On peut chanter des beaux chants, et merci Rav, hein, pour les gens que tu as choisis, très profonds ce matin. Mais en même temps, notre cœur n'y est pas. Et je vous propose ce matin de lire un psaume ensemble et de voir ce que cet homme de Dieu a vécu à travers ce psaume. Mais avant, je vais prier encore une fois. Seigneur, merci pour ta présence. C'est un réel privilège de pouvoir venir devant toi. Et aussi une responsabilité de parler de ta part, Seigneur. Seigneur, qui suis-je pour parler de ta part, Seigneur? Toi seul, tu es digne. Merci pour mes frères et sœurs ici présents. Tu sais ce que chacun de nous, nous avons vécu cette semaine. Dans le travail, à la maison, dans nos études, dans nos relations avec nos voisins. Que tu puisses nous rejoindre, Seigneur. Merci, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que nous pouvons construire toute notre vie sur cette parole qui ne change pas, qui est la même. Et merci parce que tu ne changes pas, Seigneur Jésus. Ton amour envers nous ne change pas. Ta grâce, ta miséricorde envers nous ne change pas. Jérémie disait tous les matins, ta grâce et ta miséricorde se renouvellent envers nous qui méritons rien. Merci pour ces moments, Seigneur. Merci pour la présidence, pour ce que Rav nous a déjà partagé. Merci de bénir ces moments. Et merci aussi de parler au cœur des enfants, Seigneur. En ton nom. Amen. Je vous propose d'ouvrir vos Bibles au psaume 73. Alors, vous savez tous qu'il y a 150 psaumes hein, dans le recueil, dans le psautier. Et ces 150 psaumes sont divisés en combien de parties? Cinq grandes parties. Et chaque partie, il y a un fil conducteur plus ou moins qui est là. Les deux premières parties, les psaumes 1 à 41, c'est une première partie. Les psaumes 42 et 72 sont une deuxième partie. Et dans la première partie, on voit vraiment cette relation de David avec son Dieu. Cette relation qu'il découvre avec son Dieu. Et ces psaumes, les psaumes 1 à 41 et 42 à 72, ont surtout été écrits par David, la plupart de ces psaumes. Mais dans la deuxième partie, les chapitres 42 à 72 du psautier, on voit déjà par moment que David commence à s'éloigner de Dieu, où il demande pardon à Dieu pour ses péchés. Et dans le psaume 73, à partir du psaume 73, que j'aimerais lire avec vous ce matin, jusqu'au psaume 89, c'est la troisième partie. Et c'est une des parties qui est pas la plus difficile, mais c'est celle où on trouve les psaumes les plus durs, les plus difficiles. Où les hommes de Dieu crient à Dieu, parce qu'ils ont l'impression que Dieu ne répond pas, n'est plus présent dans leur vie. Et à partir du chapitre 90 jusqu'au chapitre 106, il y a une quatrième partie, on remonte la pente, et au chapitre 107, psaume 107 à 150, c'est là où on rend de nouveau gloire à Dieu. Et cette troisième partie, on a même un psaume, le psaume 88, qui s'appelle, je ne sais pas si vous l'avez lu ces derniers temps, si vous êtes vraiment dans un moment de découragement, ne le lisez pas. C'est le psaume qu'on appelle le mouton noir. Pas moi, hein, j'ai lu ça. Mais c'est vraiment un psaume qui est très difficile. Où l'auteur du psaume révèle ce qu'il vit, son combat avec Dieu. Et je vous propose maintenant de démarrer, de lire psaume 73. Certains d'entre vous ont peut-être marqué dans vos Bibles, c'est marqué livre 3, livre 2, livre 1 en général. Hein. Ce que je voulais peut-être encore souligner, nous on l'a marqué dans nos Bibles, mais à l'époque c'était pas marqué. Et vous voyez comment on sait pourquoi on passe d'une partie d'un livre des psaumes à une autre partie. À chaque fois c'est marqué, regardez le psaume 41, verset 14. « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen, amen. » À chaque fois, une partie s'arrête et se termine par ces versets. « Béni soit l'Éternel. » La deuxième partie, psaume 42 à 72, hein, qu'on a ici, on peut le lire au 72, le verset 18. « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui seul fait des miracles. Béni soit à jamais son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen. » Fin des prières de David, fils d'Isaïe. Vous trouvez quand même encore là l'autre psaume dans les prochains psaumes. Ça montre à chaque fois les parties. Et je vous propose ce matin de lire le psaume 73. Je vais le lire. Je lis dans la version Colombe. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Quand à moi, pour un peu, mes pieds allaient fléchir, il s'en est fallu d'un rien que mes pas ne glissent, car je jalousais les insensés en voyant la prospérité des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est replet. Ils n'ont aucune part à la peine des hommes. Ils ne sont pas frappés avec les humains. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence et le vêtement qui les enveloppe, leur figure est débordante de graisse. Les imaginations de leur cœur dépassent la mesure. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils parlent haut. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple en arrive là. On avale l'eau abondamment. Et l'on dit, comment Dieu le connaîtrait-il? Y a-t-il même de la connaissance chez le Très-Haut? Ainsi sont les méchants. Toujours tranquilles, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Tout le jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux m'exprimer comme eux, voici que je trahirais la race de tes enfants. J'ai donc réfléchi pour comprendre cela. Ce fut pénible à mes yeux. Jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu. Alors j'ai compris le sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les précipites dans la tourmente. Comment? En un instant, les voilà en pleine désolation. Ils sont à bout, achevés par l'épouvante. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton éveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les reins, j'étais stupide et sans connaissance. Avec toi, j'étais comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduis par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel? En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. Car voici que ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Vous avez peut-être lu ce psaume récemment. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que ce psaume nous révèle? Premièrement, c'est Asaph hein, qui a écrit ce psaume. Et on voit que Asaph n'est pas du tout dans la louange, dans l'adoration, dans l'exaltation. Au contraire, on voit à travers ce psaume que Asaph passe un moment de découragement. Au verset 2, je relis. Mes pas allaient fléchir, il s'en est fallu de rien que mes pas ne glissent. Louange vivante, c'est Alfred Kuhn hein, qui a écrit les psaumes et a traduit par louange vivante. Et je vais parfois lire le verset en même temps, comment il est écrit dans louange vivante. Ça permet parfois de comprendre un peu mieux. Et le verset 2 dans louange vivante, Alfred Kuhn l'a traduit. Je perdais l'équilibre, faisais faux pas, je chancelais, j'étais sur le point de fléchir, je serais presque tombé. Au verset 4, Asaph dit, chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Kuhn traduit, tous les jours je suis puni, frappé, tous les matins mon châtiment revient. Ma peine se renouvelle tous les matins. Et Asaph dit au verset 21, je ne sais pas si vous avez remarqué le verset 21, « Mon cœur était aigri, mes reins transpercés. Il y avait de quoi ?» Kuhn traduit ce verset, « Mon cœur était serré, amer. Mon esprit se torturait. Mon être tout entier était déchiré, transpercé. Je me tourmentais, j'étais blessé dans mon fort intérieur. » Alors je ne sais pas si ce matin tu es blessé dans ton fort intérieur. Blessé dans ton âme. Peut-être déchiré dans ton âme. Peut-être te sens-tu abandonné par Dieu. Tu as l'impression que Dieu s'est éloigné de toi. Que Dieu ne se soucie pas de ta situation. Et qui de nous n'a pas déjà passé par des moments comme ça? On a l'impression que Dieu n'entend pas, répond pas. Mais on peut se demander pourquoi Asaph était-il tourmenté à ce point? Pourquoi Asaph se trouvait-il dans un tel découragement, sur une pente glissante? Et en fait, qui était Asaph? Vous savez qui était Asaph? Je vous écoute, hein? Allez-y. Hein? Un psaultier, quelqu'un qui... Qu'est-ce que tu veux dire par là, Léna, un psaultier?
En fait, il était dans un groupe de musiciens.
Écoutez, je vous propose de lire 1 Chronique 16, 2 à 7. Lucas, est-ce que je peux demander de le lire? Ça nous donne un indice de qui était Asaph, pour voir un peu... De...
1 Chronique 16.
Oui, c'est juste après les rois. Hein. C'est un livre qu'on n'a pas trop l'habitude de lire, mais je vous encourage à le lire. 1 Chronique 16, les versets 2 à 7, si tu veux bien lire, Lucas, merci.
Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices de communion, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Puis, il distribua à tous ceux d'Israël, hommes et femmes, à chacun une miche de pain, un rôti et un gâteau de raisin. Il plaça devant l'arche de l'Éternel ceux des Lévites, dont le service était d'invoquer, de célébrer et de louer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Asaph, le chef, Zacharie, le second après lui, Yel, Shemiramoth, Yel, Matthia, Eliab, Benayahu, Obed-Edom et Yel. Ils avaient des instruments de musique, des luttes et des harpes, et Asaph faisait retentir les cymbales. Les sacrificateurs, Benayahu et Yahaziel, sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'Alliance de Dieu. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer l'Éternel.
Voilà, jusqu'à là. Merci, Lucas. Alors, ces versets nous montrent hein, qui était Asaph. C'était un responsable de la louange hein, au temps de l'Ancienne Alliance. C'était David qui l'a instauré comme chef de louange. Hein. Et le rôle, son rôle était, en tant que responsable, de diriger le peuple vers la louange, l'adoration. Et à travers le louange, que le peuple découvre la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, la fidélité de Dieu. En plus, on sait que Asaph était d'origine lévite, hein? Donc il connaissait très bien les lois, les règles de l'Ancien Testament, il connaissait très bien aussi tout ce qui était attrait au tabernacle, hein? Et on peut penser en tant que de chef d'orchestre, si je peux dire, hein, que son passe-temps favori était de s'entraîner à louer Dieu, à chanter des chants, et à travers cette louange, de s'imprégner de qui est son Dieu, de s'imprégner des attributs de Dieu, de sa grandeur, de sa fidélité, de ses promesses, et à travers lui, entraîner le peuple à découvrir qui est ce Dieu. Pourtant, on voit ici, au psaume 73, qu'Asaph n'était pas du tout dans la louange, dans l'adoration. Même le psaume 74 qui suit, que Asaph a écrit aussi. Quels sont les enseignements qu'on peut tirer de ce psaume? Premièrement, on voit à travers ce psaume qu'aucun serviteur de Dieu n'est épargné par des moments de souffrance, par des moments de lutte, des moments de combat, de doute par rapport à la personne de Dieu, par rapport au Seigneur. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous lisez l'histoire des hommes de Dieu que Dieu a utilisés, vous lisez l'histoire d'Abraham, de Moïse, de David. Tous ont passé par des moments de doute, de lutte, de combat, de remise en question par rapport à la fidélité de Dieu. Rappelez-vous Élie le Tishbite, c'était mon dernier message. 1 Roi 17, 18, 19, il a fui devant Jézabel, il a demandé la mort. Pourtant, quelques instants avant, il a vu Dieu intervenir, le feu descendre du ciel, consumer l'holocauste, les pierres, le bois. Il n'y avait plus rien. Et pourtant, il a demandé l'amour. Rappelez-vous Jérémie le prophète. Combien d'années de prédication, Gilles?
Un certain nombre.
40 années. 40 années de prédication. Le même message. Repentez-vous. Aucune conversion. Le même message adressé à son peuple, adressé à sa famille, adressé à ses amis, à ceux de son village. Et qui ne connaît pas et n'a pas déjà lu l'histoire de Job? En une journée, Job a perdu ses 7 fils, ses 3 filles. En une journée, il a perdu plus de 10 500 têtes de bétail. En une journée, il a perdu tous ses serviteurs. Et par la suite, sa santé, sa femme qu'il a rejetée. Et à la fin du livre de Job, est-ce que Dieu lui a dit pourquoi il devait vivre tout cela après une année de souffrance, de lutte et de combat? Aucune réponse de la part de Dieu. Aucune. Ça montre bien que la souffrance fait partie de notre marche avec le Seigneur. Rappelez-vous Jésus-Christ. Nous sommes à 3 semaines de Pâques. Jésus-Christ a souffert la solitude, l'incompréhension de ses disciples plus d'une fois, l'angoisse, l'humiliation. On lui a craché dessus, on lui a mis une couronne dessus. Il a été abandonné de son Père. Le seul moment où il a été abandonné de son Père, c'était quand il était à la croix. À cause de notre péché, à cause de mon péché. Dieu a détourné son regard de lui. On voit que dans ce psaume, Asaph regardait aussi autour de lui. Et plus il regardait autour de lui, plus il était découragé. Que Dieu laisse faire les méchants qui n'interviennent pas. Que Dieu n'intervient pas envers ceux qui le rejettent. Les méchants dans la Bible, c'est ceux qui s'opposent à Dieu. Les méchants dans la Bible, vous pouvez lire le psaume 14. C'est ceux qui veulent rien savoir de Dieu et qui se détournent volontairement de Dieu. Et ça ressort dans ce psaume 73. Je vous propose de relire les versets 3 à 9. Car je jalousais les insensés en voyant la prospérité des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps est replet. Ils n'ont aucune part à la peine des hommes. Ils ne sont pas frappés avec les humains. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence et les vêtements qui les élèvent enveloppent. Leur figure est débordante de graisse. Les imaginations de leur cœur dépassent la mesure. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils parlent haut. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Le verset 12. Ainsi sont les méchants, toujours tranquilles. Ils accroissent en plus leur richesse. Ils ne sont pas seulement tranquilles, mais ils accroissent aussi leur richesse. Rien ne tourmente les méchants jusqu'à la mort. Les méchants sont toujours tranquilles, ils accroissent leur richesse. Asaph avait l'impression que les méchants, aucune souffrance, aucune lutte. Ils sont épargnés du malheur. Tout leur réussit dans la vie, vu qu'ils accumulent des richesses. Asaph, on peut se poser la question, avait-il raison de se plaindre vis-à-vis de Dieu, en lien avec les méchants? C'est vrai qu'on peut le comprendre, parce qu'il de nous ne connaît pas des personnes dans notre entourage qui accumulent des richesses, qui n'en ont rien à faire de Dieu, même dans notre propre famille. Et on a l'impression que tout leur réussit. Mais en même temps, il y a aussi des personnes, des méchants, si on peut dire, qui passent par la souffrance. Des méchants qui passent par la maladie, par la solitude. Et souvent, Dieu utilise cela pour les attirer à lui, pour qu'ils fléchisse les genoux devant lui, comme on l'a chanté ce matin. Asaf était tellement découragé que sa manière, je pense, de voir sa situation était déformée. Asaf n'était plus du tout objectif. Et on peut voir, quand on lit ce psaume, que les épreuves que Dieu permet dans la vie d'Asaf révèlent autre chose. D'autres luttes, d'autres combats qui se passent dans son cœur. Asaf est jaloux des vantards, verset 3. Je portais envie aux insensés, je jalousais. Puis une traduit, je regardais les méchants d'un œil d'envie. Je devenais jaloux des arrogants, de ceux qui se glorifiaient. Et le verset 12, Asaf nous parle, hein, ils accroissent leur richesse. Peut-être que Asaf, dans son cœur, était jaloux en lien avec la richesse des méchants. Le mot jalousie, j'ai regardé ce que ça veut dire. La jalousie est un sentiment aussi répandu que complexe et trompeur. La jalousie cache souvent des frustrations, des désirs inavoués. C'est un sentiment hostile qu'on éprouve en voyant un autre jouir d'un avantage qu'on ne possède pas ou qu'on désire posséder seul. Parmi les sentiments, c'est celui qui est le plus dissimulé. Nous ne sommes peut-être pas à l'exemple d'Asaf, jaloux des richesses des autres, et qui sait. Mais peut-être sommes-nous jaloux vers un frère, vis-à-vis d'un frère, vis-à-vis d'une sœur. Et c'est ce que Paul reproche aux Corinthiens. Je vais lire 1 Corinthiens 3, 3. Rappelez-vous de l'église de Corinthe, hein. C'était l'église la plus parfaite. C'était l'église qui avait tous les dons. Et pourtant, Paul dit en Corinthiens 3, 3, « Vous êtes encore animés par votre nature charnelle, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, des divisions. » Et il termine ce même livre, 2 Corinthiens 12, 20, en répétant la même chose. « J'ai peur à mon arrivée de trouver des querelles, de la jalousie, de la colère, des rivalités, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des désordres. » Charles Swindoll disait « Aucune réaction n'est plus cruelle que la jalousie. » Si nous laissons la jalousie proliférer dans notre cœur, les conséquences peuvent être dévastatrices. Et on voit, dans ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 20, hein, ce que la jalousie produit, la colère, les rivalités, les médisances, les calomnies, le désordre, l'orgueil. Tout part la jalousie. Permettez-moi de vous poser une question. Y a-t-il de la jalousie dans ton cœur ce matin? Jalousie qui peut être liée à une souffrance, une injustice vécue dans le passé. Jalousie envers un frère, une sœur. Il y a quelques semaines en arrière, j'ai dû confesser ma jalousie vis-à-vis d'un frère. Pas facile. Mais comme ô combien libératrice. Ou libérateur. Au moins Asaf, je trouva le mérite de dire qu'il était chevelu. Il l'a dit. Malheureusement, on voit chez Asaph qu'il n'y avait pas que la jalousie dans son cœur. Au verset 1, on peut lire « Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. » Asaph croyait que Dieu était bon envers ceux qui le cherchent sincèrement, ce qui est vrai. Mais Dieu est aussi bon envers les méchants. Dieu est aussi bon envers ceux qui ne le cherchent pas. Rappelez-vous les béatitudes, Matthieu 5, 45, Jésus il dit à ses disciples que son Père fait lever le soleil sur les justes comme sur les injustes, sur les bons comme sur les mauvais. Et le verset 13 nous révèle un autre point avec lequel Asaph luttait dans son cœur. Verset 13, on peut lire « C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur. » Parole vivante traduit « C'est encore par pure perte que je me suis donné tellement de mal pour chercher à être pur et te plaire. » C'est comme si Asaph, qui était en colère envers Dieu, disait « À quoi me sert-il de marcher dans l'intégrité ? À quoi me sert-il de marcher dans la justice si au fond les méchants récoltent la même chose que les justes ? À quoi sert-il de te glorifier, Seigneur, pour ma conduite, par ma conduite, à travers mes chants, mes louanges, si tu me donnes rien en retour. » On peut dire que Asaph était sur une pente glissante, car dans son cœur, il y avait non seulement de la jalousie, mais aussi de l'amertume, de la rancune envers Dieu, de la colère cachée. Le verset 21 nous dit « Mon cœur était aigri. » Puis il traduit ce verset « Mon cœur était serré, amer, mon esprit se torturait. Mon être entier était déchiré, transpercé. Je me tourmentais, j'étais blessé dans mon fort intérieur. » Peut-être que Asaph croyait que Dieu lui devait quelque chose, du fait qu'il le recherchait de tout son cœur, du fait qu'il était chef de chorale, qu'il l'honorait et le louait par ses lèvres, par ses chants, contrairement aux méchants qui n'en ont rien à faire de Dieu. Parce qu'il louait Dieu, Dieu devait s'occuper de lui. Ne pas permettre qu'il passe par des souffrances, par des difficultés, par la solitude. Je pense qu'on peut comprendre Asaph, non ? Combien de fois nous arrive-t-il pas de raisonner comme Asaph ? Parce que je suis enfant de Dieu, Dieu doit veiller sur moi. Dieu doit m'éloigner les souffrances, les maladies. Dieu doit me soutenir, me bénir, bénir mes études, mon travail, ma maison, mes enfants, me protéger de tout accident, de toute maladie, éloigner de moi la souffrance, la solitude. Combien de fois nous arrive-t-il de raisonner comme ça dans notre marche chrétienne? Et surtout, quand nous sommes dans une situation que nous ne contrôlons pas. Personnellement, j'ai toujours un nouveau besoin de réaliser que Dieu ne me doit rien, strictement rien, et que moi je lui dois tout. Et Dieu fait ce qu'il veut. Et tout ce qu'il fait est juste et bon, même si je ne comprends pas. Comme il le dit au début du psaume, oui, Dieu est bon, Dieu est toujours bon. Heureusement, Qu'Asaph, à un moment donné, s'est arrêté. Il prend du recul de la situation dans laquelle il est et il réfléchit. Verset 16. J'ai réfléchi pour comprendre cela. Mais la difficulté fut grande à mes yeux. Qu'une traduit, je me suis mis à réfléchir longtemps. J'ai cherché à comprendre. Mais plus je réfléchissais, plus cela devenait un tourment à mes yeux. Tout cela m'était devenu insupportable, pénible à voir. Un problème trop douloureux pour moi. Asaph reconnaît ici que ce n'est pas toujours facile de comprendre le dessein de Dieu. Mais Dieu ne nous demande pas de comprendre. Dieu nous demande de lâcher prise. Dieu nous demande de lui faire confiance. Vous connaissez tous ce verset dans Ésaïe 30. J'ai une fois prêché dessus, mais ça remonte. Ésaïe 30, 15. La loi, elle connaît par cœur. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais le verset termine. Mais vous ne l'avez pas voulu. Mais vous n'avez pas voulu lâcher prise. Alors, je vous pose une autre question ce matin, que je me suis posée à moi aussi. Dois-je lâcher prise dans un domaine de ma vie? M'abandonner complètement, entièrement au Seigneur et lui faire confiance? Asaph, il dit, ce fut pénible à mes yeux, difficile à comprendre, jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que je suis entré dans le sanctuaire de Dieu, verset 17. Une traduit, je suis entré dans le dessein secret de mon Dieu. J'ai pénétré dans la demeure du Dieu fort. Asaph est revenu à Dieu. Dans sa présence, il a accepté sa situation, même s'il ne comprenait pas pourquoi. Dans cette présence, cette intimité retrouvée avec son Dieu, il a réalisé que les méchants qui l'entourent et qui n'ont rien à faire de Dieu devront un jour rendre compte à Dieu. Je vais relire les versets 17 à 20. Jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu, alors j'ai compris. Dans la présence de Dieu, ses cieux se sont ouverts, il a compris. Alors j'ai compris le sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les précipites dans la tourmente. Comment en un instant les voilà en pleine désolation? Ils sont à bout, achevés par l'épouvante. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton éveil, tu repousses leurs images. Au verset 27, il dit, voici que ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles ou qui te tournent le dos. Asaph, dans la présence de Dieu, a réalisé qu'il s'était trompé, qu'il avait exagéré. Et il va jusqu'à l'avouer à son Dieu. Asaph reconnaît ses torts. Verset 22, il dit « J'étais stupide et sans connaissance. » D'autres versions traduisent « J'étais un idiot, un sot. J'étais sans intelligence, un animal sans raison. Je me comptais comme un fou, je me comportais comme un fou traduit qu'une, un abruti. Je ne comprenais rien. » Souvent, quand nous sortons de cette présence de Dieu, nous avons du mal à comprendre, à saisir les pourquoi et les comment. Heureusement que Asaph s'humilie et reconnaît son égarement, sa jalousie, son amertume, sa folie. Asaph confesse son péché, son attitude hautain, son manque de sagesse, de discernement. Et là, miracle. Est-ce que vous avez vu un reproche de la part de Dieu envers Asaph dans ce psaume? Aucun reproche. Quelle compassion, quelle patience, quelle miséricorde de la part de Dieu envers nous, envers Asaph. On parle d'Asaph, on ne parle pas de nous. Quelle grâce. Dieu pardonne à Asaph. Dès qu'on vient dans sa présence, Dieu nous pardonne. Dieu fait grâce. Et non seulement Dieu a pardonné à Asaph, mais c'est Dieu lui-même qui a ouvert les yeux à Asaph et qui l'a attiré à nouveau dans sa présence. Lisez le verset 23. « Je suis toujours avec toi, malgré mes égarements, car tu m'as saisi par la main droite. Tu m'as empêché de glisser, de m'éloigner complètement de toi. Tu m'as conduit dans ta présence. » Verset 24. Et un jour, j'y serai définitivement dans ta présence pour toujours, et je verrai ta gloire, dit Asaph. C'est Dieu qui est intervenu à tirer le bras d'Asaph pour qu'il ne glisse pas complètement, qu'il ne s'éloigne pas complètement du chemin de Dieu, et a permis qu'Asaph retrouve de nouveau cette relation avec Dieu, où il a compris, saisi ce qui lui arrive. Asaph, au début du psaume, disait qu'il était en train de glisser de perdre pied, verset 2. Il termine ce psaume par l'assurance qu'un jour il sera dans la présence de son Dieu et qu'il le verra dans sa gloire. Au verset 26, Asaph nous dit « Ma chair et mon cœur peuvent défaillir, peu importe, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma meilleure part. Car, verset 25, qui d'autre ai-je au ciel que toi? Et en dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur terre. » Asaph s'est arrêté, a pris du recul, a réfléchi, a lâché prise et est revenu dans la présence de son Dieu. Il s'est humilié. Et dans cette intimité, il a tout à nouveau réalisé que son plus grand trésor ne sont pas les trésors terrestres qui sont éphémères, mais c'est le trésor céleste, cette relation qu'il a avec son Dieu. Et Asaph, après avoir lâché prise, a retrouvé son intimité avec son Dieu et sa confiance et son bonheur en Dieu. Et c'est pour ça qu'il termine ce psaume en disant « Je place mon refuge en toi, Seigneur. » Verset 28. « Éternel, car mon bonheur à moi se trouve en toi et en toi seul. Que nous puissions dire cela avec Asaph. Je place mon refuge en toi, Seigneur, éternel, car mon bonheur à moi se trouve en toi seul. Amen.